105 FM. Il est 21h passé de quelques minutes. Vous êtes installé dans une nouvelle soirée de confinement tout au fond de votre fauteuil. Vous avez assisté incrédule cette semaine aux évolutions de la crise sanitaire. Et vous vous posez toujours autant de questions sur ce qui est non nécessaire dans notre société. Société gangrenée, il faut bien le dire, par l'obscurantisme et l'absurde. Mais bon, vous en avez profité aussi pour mater un excellent documentaire sur Arte et sur les toilettes. Vous savez l'endroit où l'on aime uriner et déféquer. C'était ça ou la 7e compagnie au clair de lune. Mais on ne vous en aurait pas voulu d'avoir privilégié Pierre Mondy au soleil. Et puis, vous vous êtes définitivement mis à la lecture de romans noirs. Et ça, ça nous rend fiers ici, car vous vous aguerrissez à un genre mortellement addictif et qui va à coup sûr vous ébranler tout en agitant et activant vos petites cellules grises. Vous êtes toujours en France et vous êtes toujours à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Vos habituels complices de presque toujours sont avec vous, Linda, Luc et votre serviteur zélé, Julien. Bonjour les amis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Eh oui, nous sommes toujours en léger différé façon puzzle sonore. C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et qui entend vous sortir du noir. Et maintenant, générique maestro.
This guy's in your barrel.
Les conseils de DJ Duclock, alias Aymeric Cloche de l'association nantaise Fondue au Noir, vous écoutiez The Wedding List de Kate Bush, un morceau vengeur enregistré en 1979 et inspiré du film de François Truffaut La mariée était en noir. Un thème que vous avez peut-être reconnu si vous avez déjà vu la trilogie Kill Bill de Quentin Tarantino. Au sommaire de cette émission qui aime à explorer toutes les formes du noir, une interview de Dominique Format à l'occasion de la sortie de Manaus, son dernier roman paru à la Manufacture de Livres. Notre débat DVD préféré portera sur A Lonely Place de Nicolas Ray avec Humphrey Bogart qui ressort chez Sidonis. Toujours sous le choc de la disparition de Sean Connery, Linda s'est replongée dans le roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose, éternellement disponible au livre de poche. Enfin, Luc, pour sa chronique On n'achève pas les classiques, s'intéresse à un petit roman d'Alain Demouzon paru à la Série Noire, dernière station avant Jérusalem. Luc, il te plairait ce nouveau roman de Dominique Format. On y retrouve une veine romanesque héritée de pêle-mêle, Pierre McCorlan, Jean Hougron et Francis Carco. Rien que ça. L'intrigue, très linéaire, nous permet de suivre un espion en mission pour le gouvernement français qui œuvre en marge d'un déplacement du général de Gaulle en Amérique du Sud. Cet homme passe d'une mission réussie à une autre qui va un peu moins réussir. Sauf si l'on entend par là réussir à faire remonter tout un lot de souvenirs qui viennent mettre à mal sa conscience. Jeune soldat pendant la guerre d'Algérie, il a trahi son commandant et a fait le choix de privilégier la France au détriment de ses supérieurs. Mais il va retrouver ce commandant et avoir une nouvelle occasion de le trahir. Comme quoi, chez Dominique Format, la repentance s'associe au mythe de Sisyphe. Dominique Format, à l'instar de Tito Topin, est un auteur que j'affectionne. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il ne lui suffit que de 3 phrases pour t'embarquer dans une histoire racontée simplement, avec un style épuré, dans une forme courte. Et ça fait du bien d'ouvrir un bon bouquin en sachant que la soirée va être réussie. Alors, confinement oblige, cette interview a été réalisée par téléphone. Il y a un peu de friture sur la ligne. Peut-être est-elle sur écoute, on ne sait jamais. Mais si je vous demande avant tout de tendre l'oreille, c'est pour écouter Dominique Format, car ce qu'il va vous dire est hautement intelligible. On commence par une question toute simple. Pourquoi le roman d'aventure ?
Pourquoi le roman d'aventure ? Je me suis pas posé cette question, en fait, quand j'ai écrit cette histoire. J'avais un lieu sur lequel je travaillais depuis un certain temps, qui était Manaus. Et d'autre part, des recherches m'avaient amené aussi à m'intéresser aux gens de l'OAS, et principalement les gens des Deltas, des commandos Delta qui s'étaient réfugiés en Amérique du Sud. Donc voilà, je cherchais une histoire qui soit plutôt liée à l'histoire avec un grand H, même si c'était des gens discrets ou des gens de l'ombre. Et j'essayais de trouver un moyen de développer une histoire plutôt que de penser en termes de romans d'aventure. Il se trouve que, bon, après, il y a cette remontée de l'Amazon. Mais pour moi, c'est pas un bouquin d'aventure du tout.
Quelle place laisses-tu aux sentiments dans tes romans ?
Alors, amour, trahison, amitié et d'autres sentiments encore me paraissent importants, en tout cas dans les histoires que j'essaie d'écrire, parce que il y a 2 types d'histoires, à mon avis. Il y a ce que les Américains appellent les story-driven ou les character-driven, c'est-à-dire les histoires qui sont liées avec une histoire principalement, et donc c'est l'action qui fait avancer un roman, et puis les histoires qui avancent grâce aux personnages. Et moi, je m'intéresse de plus en plus, en vieillissant aux histoires qui sont liées aux personnages et donc aux sentiments sont véhiculés au travers de ces personnages. Donc tu prends deux personnages qui sont deux personnes qui s'aiment, et si une des deux a trahi son partenaire, là j'ai déjà le début d'une histoire. Voilà. Donc ces sentiments sont importants, c'est ce qui nous permet aussi de nous définir, de nous regarder dans une glace ou pas.
Pourquoi Manaus ?
Manaus, ça m'inspirait. Je vais te dire, en fait, c'est pas du tout lié au livre, mais la première chose que m'inspirait Manaus, c'était, quand je pense à Manaus, je pense à l'homme de Rio. Car je crois qu'il y a un passage où dans l'homme de Rio, Belmondo se retrouve en plein milieu de l'Amazonie, peut-être Manaus d'ailleurs. Et c'est comme un souvenir, comme une Madeleine de Proust, un souvenir comme ça d'enfant. Mais ça, mis à part, mais qui me rend quand même Manaus assez agréable. Il s'est trouvé que je lisais des choses sur l'histoire de cette ville, et ce qui a déclenché l'envie de faire une histoire, c'est que au milieu des années 60, la ville était vraiment ruinée économiquement parlant, et le gouvernement, et je crois que c'est le gouvernement militaire, a décidé d'ouvrir la ville financièrement, de faire que c'était une zone free pour Manaus, ce qui fait que toutes sortes d'investissements pouvaient venir s'installer à Manaus, ce qui était une bonne idée parce que ça permettait à la ville évidemment de se relancer, et ça permettait aussi à beaucoup d'argent, enfin un moyen de blanchir de l'argent à Manaus. Et à partir du moment où je me suis dit, oui, on peut blanchir de l'argent à Manaus en, je crois que c'est, je sais plus si c'est 64 ou 67, je crois que c'est 67, je dis, là j'ai un sujet, là j'ai quelque chose qui m'intéresse. Si des types peuvent venir avec des valises et deviennent des notables, ou envisagent de devenir des notables, j'ai le début de mon histoire.
Tu peux nous en dire plus sur l'époque de ton intrigue ?
Je ne sais pas si l'époque que j'utilise, dans laquelle je mets mes personnages, est la dernière époque véritablement romanesque ou romantique. Et romantique, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je me dis que jusqu'à présent, les histoires que j'ai faites, je les ai mises dans le passé pour ne pas avoir, peut-être par peur, d'avoir à affronter des critiques ou des commentaires qui traiteraient, qui réagiraient par rapport à ce que je dirais sur ce qui se passe à l'heure actuelle, sur ces 10 dernières années par exemple. Il est peut-être plus facile de parler du service action, des renseignements, des services secrets français et des rapports qu'ils ont avec des anciens commandos Delta lorsque l'histoire se passe en 64, que de parler de un type qui trafique et qui fait venir des migrants à travers la Méditerranée. Donc je me disais quand je finissais l'histoire qu'il y avait peut-être aussi de ça, tu vois, que si l'histoire se passe à ce moment-là, c'est évidemment parce que, comme je te le disais, il y avait une importance de ce qu'était Manaus à ce moment-là, et que j'étais en train de dire des choses sur le général de Gaulle et sur l'OAS, et donc les années 60 répondaient. Mais j'aurais l'ambition, je ne sais pas si j'aurais les idées nécessaires, mais j'aurais l'ambition de faire une histoire qui se passe plutôt dans les années 70, puis une autre dans les années 90, pour essayer de me rapprocher, tu vois, de maintenant, du 21e siècle. Ce qui est plus compliqué pour moi, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, l'histoire, avec un grand H, m'aide, je peux m'appuyer dessus pour construire mon histoire et mes personnages.
C'est qui ce personnage dont tu racontes l'histoire ?
Il est au service action, ce qu'on appelle maintenant les opérations homo, c'est-à-dire les opérations où tu prends un risque de tuer, enfin tu es censé aller tuer quelqu'un ou en tout cas prévenir quelqu'un qu'il n'a pas intérêt à continuer à faire ce qu'il faisait, mais que si toi tu es pris, d'aucune manière l'État reconnaîtrait un lien dans l'action qui a été commise. Donc voilà, c'est en général des gens qui sont d'ailleurs assez proches des personnages, du premier personnage qui l'élimine, des militaires qui ont, durant la guerre d'Algérie, qui sont passés du côté de l'OAS et d'autres qui sont restés fidèles au gouvernement, étaient des gens qui souvent avaient déjà eu des opérations, avaient travaillé ensemble, se connaissaient pour ce qu'ils avaient fait en Indochine. Donc il y avait un lien, tu vois, que j'aimais bien, que j'ai pas utilisé dans l'histoire parce que je voulais rester près de l'os mais ça baigne dans tout ce moment d'histoire qui démarre avec la Deuxième Guerre mondiale, la construction des premiers services secrets français, qui se retrouvent en Indochine, qui se retrouvent ensuite en Algérie. Et là, j'ai deux personnages un peu perdus d'ailleurs, qui sont l'un et l'autre. Je parle du premier type qui a été assassiné en Argentine, qui ont eux-mêmes continué leur propre dérive. Donc c'est un agent secret, si tu veux.
Tu nous as choisi quoi comme morceau musical ?
Alors, j'ai choisi un morceau des Small Faces qui s'appelle Tin Soldier. Les petits, parce que, avec le titre, si tu veux, d'abord c'est un morceau des années 60. J'avais réfléchi à un truc de Perez Prado ou d'Imasumac, mais je trouvais que c'était, comme on dit en anglais, on the nose, tu vois, un truc qui se passe en Amérique du Sud, et puis je mettais du mambo ou de la rumba. Je trouvais ça un peu fainéant. Tin Soldier, c'est les petits soldats, tu vois, c'est les petits soldats avec lesquels on joue. Et quand on est enfant, on dirait les petits soldats de bois, même si Tin, c'est en ferraille. Et je me dis, c'est un peu mes personnages aussi. Voilà, ces hommes, en fait, ne sont que des petits soldats. Il y a quelque chose toujours à la fois de tragique et de pathétique. Et ça me plaît bien, ça, cette idée de où la tragédie est forcément liée à quelque chose de pathétique. Ça retire de l'arrogance au personnage. C'est un super morceau, en plus. Hein. C'est vraiment un truc... Je le mets tous les 3 mois sur Facebook tellement il me plaît. Il y a une version live qui était passée à une télé française, tu vois, dans les années 60, Bouton Rouge, voilà. Et Steve Marriott, qui a fait Humble Pie après, qui est le chanteur des Small Faces, fait une version avec une petite blague aussi, qui n'a pas fait une grosse carrière, mais vraiment qui dépote. Essayez de la voir, c'est impressionnant.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. C'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. Nous écoutions Tin Soldier de Small Faces, un choix musical de Dominique Forma. Je vous rappelle le titre de son roman, Manaus, et c'est à la manufacture de livres. J'allais vous dire de vous précipiter chez votre libraire préféré, mais bon, il est 21h et quelques, et de toute façon, les librairies sont fermées car elles ne sont pas nécessaires. Et puis, vous auriez été obligé de remplir une attestation de sortie hautement démocratique. Demain, contactez votre libraire et voyez comment vous pouvez récupérer sous le manteau ce roman. Mais, vous entendez cette petite musique ? Eh oui, c'est l'heure de notre débat. Et je sens que Luc est énervé alors que Linda me paraît plutôt détachée. On écoute d'abord un petit extrait et on en parle tous les trois.
Place in the road, and you begin to squeeze. You're an ex-GI, you know judo, you know how to kill a person without using your hands. You're driving the car and you're strangling her. You don't see her bulging eyes or protruding tongue. Go ahead, bruv. Squeeze harder. You love her, and she's deceived you. You hate her patronizing attitude. She looks down on you. She's impressed with celebrities. She wants to get rid of you. You squeeze harder. Harder. Squeeze harder. It's wonderful to feel her throat crush under your arm.
Rob, stop it!
Bonjour les amis. Bon, je vous préviens, j'essaye de rester calme aujourd'hui, mais la colère gronde en moi. Et pourquoi cette colère, me direz-vous? Il faut vraiment que je fasse tout dans cette chronique, les questions et les réponses. Et pourquoi donc cette colère, me direz-vous? À cause de ces bons sens de traducteurs de titres de films ou de romans. Dans la tête de quel énergumène sensé, je dis bien simplement sensé, a-t-on pu concevoir la traduction du titre du film « In a Lonely Place » dont Julien, tu m'as demandé de faire la présentation? Dans la tête de quel bipède doté d'un cerveau à peu près normalement constitué et prétendant avoir quelques rudiments, je dis bien quelques rudiments, je ne parle même pas d'une connaissance de la langue anglaise de niveau 3e par exemple. Le titre « In a Lonely Place » a-t-il pu devenir le violent ? Et dans la tête de quel distributeur un tant soit peu éduqué a-t-il été possible d'accepter qu'un film du grand Nicolas Ray porte le titre de « Le violent », qui nous fait plus penser à un nanar français de série Z dans lequel on avait l'habitude de voir jouer Roger Hanin, Jess Han ou Jean Richard, qu'à un film noir de la grande période du cinéma américain. Fin de ma colère. Et donc, « In a Lonely Place », de quoi cela parle ? Dixon Steele, Humphrey Bogart, scénariste talentueux, un genre de Jean-Claude Carrière, pour vous donner une image, mais en bout de course, doit adapter un roman à l'eau de rose. Il se le fait résumer un soir, chez lui, par une secrétaire jolie mais plutôt bébête. Fatiguée, il la renvoie chez elle, mais elle est tuée sur le chemin du retour, et bien évidemment, Dixon Steele est soupçonné, parce que justifiant d'un nombre de plaintes pour coups et blessures longs comme le bras. Vous comprenez maintenant le titre français ? Subtil, non ? Une voisine, Laurel Gray, Gloria Graham, va témoigner de son innocence en certifiant l'avoir vue chez lui à l'heure supposée du crime. Et devinez ce qui arriva ? Laurel Gray va tomber amoureuse de Dixon Steele. Résumé comme ça, c'est court, vous ne trouvez pas, mais il y a la patte de Nicolas Ray. La fureur de vivre, Johnny Guitar. Une caméra légère, élégante, des cadrages au cordeau et des perdants magnifiques. Et Humphrey Bogart et Gloria Graham, le son perdant magnifique dans ce film. Humphrey Bogart en psychopathe violent et cynique qui croit en sa rédemption grâce à l'amour de Gloria Graham, beauté troublante et mystérieuse. Et Gloria Graham, amoureuse éperdue de Bogart, mais qui va découvrir que cet amour est toxique et qu'il la conduira à sa perte. In a Lonely Place pourrait tenir en une seule scène, 2 minutes précisément, juste au milieu du film. Humphrey Bogart et Gloria Graham sont dans un bar, assis côte à côte, autour d'un piano, avec d'autres clients. La pianiste chante et c'est sa voix qui domine. Bogart et Graham se parlent, mais on n'entend pas ce qu'ils se disent, et ce n'est pas nécessaire. Ils sont la quintessence du couple amoureux. Nicolas Ray sait capturer l'instant et les deux comédiens donnent une leçon de jeu. C'est purement éblouissant. Quand on sait que Nicolas Ray était, pendant le film, en train de se séparer de Gloria Graham, qui était sa femme, on mesure tout l'exploit. Alors au final, avec mes maigres connaissances d'anglais, In a Lonely Place, moi je l'aurais traduit par « Les solitaires », qui me semble signifier tout à fait ce que veut nous dire le titre anglais. C'est de Nicolas Ray et c'est sorti en 1950.
Alors Julien, une fois n'est pas coutume, je vais peut-être pas être archi positif sur ce film, qui n'est pas un mauvais film, hein, faut pas pousser non plus. Mais bon, il y a des scènes qui sont sympathiques, mais par exemple la scène où Bogart est censé péter les plombs et il met sur la figure d'un gars et il le mettrait à mort si sa douce ne l'en empêchait pas. Ben moi j'y crois pas un pet quoi. J'ai des problèmes de monter comme ça, je trouve toujours. Alors c'est son jeu hein, Bogart, mais c'est un peu monocorde je trouve et j'ai du mal à sentir la lettre, enfin bref, les tensions de ce gars-là. Alors en plus, bon, j'ai toujours ce truc avec les femmes qui ont dans la vie pas grand-chose à faire à part changer de toilette. On se demande comment elles vivent en fait. Alors celles qui sont mariées, bon bah voilà, on sait. Mais la douce et belle qu'il rencontre, bon voilà. C'est vrai qu'elle est chouette. Enfin, cette comédienne est très chouette parce qu'elle est pas que la femme fatale cliché. C'est vraiment, elle est très rayonnante dès qu'elle sourit. Elle est pétillante. Il y a un vrai jeu. Enfin, voilà, c'est pas du faire valoir de Bogart, quoi. Bon, et puis le côté fatalitas, on le voit venir quand même. Ça, j'ai trouvé ça un poil capillotracté, quoi. Il y a une scène que je trouve chouette, c'est la scène du faux premier baiser, en fait, parce qu'il n'aura pas lieu. Où, pour le coup, on trouve un Bogart qui est moins sûr de lui, qui est plus frémissant, qui l'approche. Elle est posée, souriante. On pense, ah, ça va arriver, ça va être... Hop, hop, hop. Elle a dit non, oui, mais j'ai dit que vous me plaisiez, mais je n'ai pas dit que j'avais envie de vous embrasser. Et puis, ça passe, c'est très pétillant, c'est assez réjouissant. Voilà. Cette petite scène-là, je la trouvais assez chouette.
Alors moi, ce qui me plaît dans ce film, c'est avant tout cette triple rencontre entre Nicolas Ray, Humphrey Bogart et Gloria Graham autour d'un roman de Dorothy Beaux. Nicolas Ray n'est pas encore totalement le grand réalisateur qu'il deviendra. Il est au début de sa carrière, ce qui ne l'a pas empêché de réaliser déjà Les Amants de la Nuit, que je vous recommande chaleureusement. Ici, nous sommes dans un véritable film noir qui nous plonge dans l'univers crade du cinéma. On pense bien sûr à Sunset Boulevard. Humphrey Bogart renoue avec ses premiers rôles. C'est un personnage antipathique. Le film ne prend pas trop le temps de nous expliquer pourquoi. Alors, on peut imaginer que c'est dû à un choc post-traumatique. L'homme a la violence dans le sang. Il est inexcusable, d'autant plus qu'il a déjà, par le passé, frappé une ancienne petite amie. Ici, la police le soupçonne d'avoir tué une femme qui a passé la soirée chez lui pour lui raconter l'intrigue d'un roman dont il doit écrire le scénario. Pour le spectateur, il est aussi coupable que pour la police, même si c'est Bogart et qu'on a envie qu'il s'en sorte. Et c'est bien le côté âme torturée et pulsion autodestructrice qui est au cœur de ce film. On préfère, nous, toujours l'image de Bogart dans Casablanca à celle qui véhicule dans les fantastiques années 20. L'anti-héros est magnifié par son jeu. Certes, ce jeu est reconnaissable. Mais il y a autre chose. Il y a l'actrice qui lui fait face, Gloria Graham. Moi, je la trouve formidable dans son rôle de femme amoureuse qui ne tarde pas à avoir peur et à douter de Bogart. Et pourtant, Qu'est-ce qu'elle est splendide quand au début elle joue avec lui et qu'elle a des répliques à nous fendre le cœur. Elle est le reflet de la violence de Bogart envers les femmes. Et puis, c'est l'actrice qui trouvera aussi de jolis rôles sous la direction de Vicente Minnelli dans La toile d'araignée et Les ensorcelés. Dans In a Lonely Place, Le violent, Luc en a déjà parlé, on se doit de dire qu'elle donne plus que la réplique à Bogart. Et la scène où on la voit partir à la fin du film est malheureusement magnifique. Alors moi, je trouve ce film noir très réussi, mais bon, j'ai un faible pour les films noirs. Et c'est un véritable plaisir de le regarder avec un superbe noir et blanc. Les amis, quel est votre verdict ?
Je ne vais pas dire, encore une fois, ce n'est pas un mauvais film. Je ne vous dis pas, allez-y, regardez-le, pourquoi pas. Après, si vous voulez regarder un autre film, bah pourquoi pas non plus, hein.
Écoutez, je vais faire simple. J'adore ce cinéma. Il n'a aucune prétention à vouloir nous donner une leçon. Nicolas Ray est juste poursuivi par l'obsession de mettre en scène des perdants, usés par la vie, désabusés, mais pas sans gloire. Ici, dans ce film, comme trop souvent les comédiennes de cette époque, l'héroïne semble totalement artificielle. Mais Gloria Graham transcende cette image et son désarroi est magnifique. Ce qui amène à une réflexion. On attribue aux comédiens une possible puissance de jeu. C'est négligé que si c'est ce que nous percevons, il y a un réalisateur derrière qui les a dirigés. Et dans In a Lonely Place, Nicolas Ray y a parfaitement réussi. Alors moi, j'en redemande.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Dieringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est loupé à la lutte du lutte, propre comme un archiduc. Entre ça, me doute, Hollywood nous berne. Hollywood berne dans la vie de tous les jours, comme dans les nouveaux westerns. Mais gare à Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne ciblent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Ils sont des époques les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chine, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, le Kubrick et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le prenne. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Parfois la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'approtait de brandy. Désormais on brandit et les chips et pépites. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. Ting Boom, Koshi, Calamity West, Les Cal, Thomas Walk, le nouveau Western.
Vous êtes sur le 101.5 FM, c'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir et c'est sur Radio G. Nous écoutions Nouveau Western de MC Solar, toujours sur les conseils d'Emeric Cloche alias DJ Du Clock, ou l'inverse, je ne sais plus trop. Vous aurez reconnu un sample du morceau de musique de Serge Gainsbourg, Bonnie and Clyde, et également une jolie truffade de références littéraires et cinématographiques de bien mauvais genre. Nous entamons maintenant notre dernière ligne droite avec Les Sueurs Froides de Linda et On n'achève pas les classiques de Luc.
A donkey teaching the scriptures to the bishops. The Pope is a fox. The abbot is a monkey. He really had a daring talent for comic images.
Erba vana, altrisui, optimum loqui.
I trust my words did not offend you, Brother William. But I heard persons laughing at laughable things. You Franciscans, however, belong to an order where merriment is viewed with indulgence.
Yes, it's true. St. Francis was much disposed to laughter.
Laughter is a devilish wind, which deforms the lineaments of the face and makes men look like monkeys.
Monkeys do not laugh. Laughter is particular to man.
As a sin. Christ never laughed.
Can we be so sure?
There is nothing in the scriptures to say that he did.
And there's nothing in the scriptures to say that he did not. Why, even the saints have been known to employ comedy to ridicule the enemies of the faith.
Le nom de la rose, roman policier historique de Umberto Eco, paru en 1980. 500 bonnes pages sans l'apostille. L'apostille, j'adore ce mot. Ça glisse, l'air de rien. Apostille, ça brille. En fait, je viens de chercher le sens dans Petit Robert. Entre parenthèses, respectueuse pensée pour Alain Rey, qui vient de nous quitter. Apostille, addition faite en marge d'un écrit d'une lettre. Ce sont en fait des éclaircissements, là, faits au lecteur par Umberto Eco, paru dans la deuxième édition, des pourquoi, comment, de son mode opératoire dans l'écriture du roman. J'ai innocemment choisi ce roman qui se situe en novembre 1327 dans une abbaye bénédictine quelque part entre la Provence et le nord de l'Italie. Pour rappel, nous sommes quelques années après le décès de Philippe le Bel, qui, pour remplir les caisses de l'État, a dézingué, entre autres, les Templiers, avec l'appui.
Mais revenons à nos moutons.
Le savoir ne vaut que s'il est partagé, dit-on. Qu'est-ce que croire ? Est-ce penser que dans les nuages, un vieux cool barbu veille sur nous ? Oui, c'est raison, ça fait plutôt penser au Père Noël, ça. Bon, le personnage de Guillaume est de plus doté de cet impayable humour anglais, si délicieusement incarné par Sean Connery dans l'adaptation cinématographique de Jean-Jacques Hano en 1986. Entre parenthèses, une respectueuse pensée pour Sean Connery qui vient de nous quitter. Décidément. Exemple, Guillaume et Atso sont dans la crypte de l'église. Atso est en extase devant la beauté et la richesse des reliquaires, surtout celui contenant, tenez-vous bien, un morceau de la croix du Christ, himself. Ne t'extasie pas trop sur ces châsses. Des fragments de la croix, j'en ai vu quantité d'autres, dans d'autres églises. S'ils étaient tous authentiques, notre Seigneur n'eût pas été supplicié sur deux planches croisées, mais sur une forêt entière. Maître, dis-je scandalisé. Il en va ainsi, Atso. Et il y a des trésors encore plus riches. Jadis, dans la cathédrale de Cologne, je vis le crâne de Jean-Baptiste, à l'âge de 12 ans. Vraiment ? M'exclamai-je tout admiratif. Puis un doute me saisit. Mais Jean-Baptiste fut tué à un âge plus avancé. Oh, l'autre crâne doit se trouver dans un autre trésor.
Il plane une odeur de soufre sur l'abbaye. La rumeur des sept trompettes de l'Apocalypse, annonciatrice des châtiments de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas fait l'école du dimanche, c'est dans les révélations de Saint Jean l'évangéliste à la fin du Nouveau Testament. Ce sont des anges qui viennent prévenir de calamités à venir, du type grêle, feu, sauterelle, inondation, etc. Seuls les fidèles seront sauvés. La guerre entre le bien et le mal fait rage. Tremblez, l'heure de l'antéchrist a sonné. Ça fait flipper. Ben, c'est fait pour. Mais si vous vous tenez bien sage, il ne vous arrivera rien. Plane également le mystère du livre perdu d'Aristote sur le rire. Le rire comme vecteur émancipateur, affûtant l'esprit et conjurant la peur. Vous imaginez un monde où on ne pourrait pas se retrouver pour se cultiver et se marier. Oui. Il y a un passage particulièrement succulent lors de la médiation où Guillaume tente d'exposer ce que devraient être les périmètres de pouvoir de l'empereur d'une part et du pape d'autre part. Il en vient à évoquer la dangerosité de confier le pouvoir à un seul homme faillible et de conclure que le pouvoir doit aller au peuple. Les gars dans l'assistance sont tout perplexes, ils ne comprennent même pas de quoi ils parlent. Je vais terminer en vous parlant d'amour. C'est bon ça, je peux en parler ça. Ce qui est, de mon avis d'ailleurs, le moins réussi dans le film. On a une caméra voyeuse, là où le texte fusionne amour charnel et amour divin, dans des échanges brillants, poétiques, émouvants. La femme doit bien avoir quelques vertus, puisque c'est une créature de Dieu. Bon, juste avant de vous quitter, je tiens à vous parler d'un film polonais de l'an dernier, sur un thème frère. C'est un film de Bartosz Bielenia, qu'il pardonne ma prononciation. Ça s'appelle La Communion. Ce film questionne la foi, l'amour, le pardon. C'est magnifique. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. À toi, Julien.
J'espère ne pas te donner le mal de mer, Julien, avec cette chronique. Pour l'instant, elle balance d'un bout à l'autre de l'Atlantique et s'il y a 15 jours, je suis allé à la rencontre de Howard Fast, aujourd'hui retour dans l'Hexagone avec un roman plus qu'étrange, Dernière station avant Jérusalem, d'Alain de Mouzon. Il est publié dans la série noire de Gallimard sous le numéro 2348, donc c'est par définition un roman noir. Conclusion un peu hâtive, tant le roman est déconcertant. Il y a des meurtres, le massacre de la famille de l'ancien chef de la police, Renato Corbucci, par ce qui ressemble à une mafia, et il y a une équipe d'enquêteurs, Virginie Lebeau, l'inspecteur Richard, qui ouvre les bouteilles de soda avec ses dents, Percy Bowman, et à sa tête le commissaire César McDo. Un personnage au profil que l'on connaît bien, bourru, qui boit, qui transpire et qui se moque de tout. Il y a une petite fille qui réchappe du massacre en se cachant dans un vide sanitaire derrière un lavabo, et c'est le début du roman. Mais tout dérape avec la découverte dans le cadre de l'enquête des premières pages d'un roman publié dans la série noire qui décrit exactement les événements sur lesquels l'enquête est conduite, intégrant les personnages eux-mêmes. Pour élucider l'affaire, McDo recourt à une étrange tribu dans le désert. Cette tribu est en lien avec le monde des rêves qui se trouve être notre monde à nous. Le passage d'un monde à l'autre se faisant par une porte située d'un côté dans le désert israélien et d'autre part à Jérusalem, près de Cosne-sur-Loire, qui existe réellement, dans la Nièvre, ville où l'on construit un ensemble immobilier nommé la Nouvelle Jérusalem. Vous suivez ? Bravo ! Mais voilà, pourquoi ce roman ? Alain de Mouzon l'a écrit en 1994. Rappelez-vous, François Mitterrand, usé, fatigué, très affaibli par la maladie, était notre président de la République et Édouard Balladur était son premier ministre. Cela sentait en France la fin de règne. Et pourtant, rien dans le roman ne fait référence à cette période de notre histoire. Alain de Mouzon le situe à Jérusalem, lieu qu'il décrit comme hyper cosmopolite et qui concentre toutes les turpitudes du monde contemporain. La violence, le nom droit, jusque et y compris la trop célèbre école de mécanique navale de l'Argentine, du tristement célèbre Videla. Dernière station avant Jérusalem est un projet ambitieux puisqu'il éclate les codes du polar. Pas de linéarité ici, mais des univers improbables qui s'entrechoquent, deux faces du monde dont il est impossible de savoir laquelle appartient au rêve. Univers quasi lovecraftien que De Mouzon manipule avec une aisance déconcertante, presque de la légèreté. Livre magistral puisqu'il s'agit d'une mise en abîme du livre, dans le rêve. Il interroge finalement l'écriture. En inscrivant l'histoire dans l'univers de la littérature, les éditions Gallimard et la série Noire en sont partie intégrante. C'est la pertinence du roman et de la fiction que De Mouzon interroge. La fiction, c'est du rêve. Et donc De Mouzon s'offre le luxe qu'aucun de ses personnages ne soit celui qu'il semble être. Le commissaire McDo essaye de résoudre une affaire dont il lit les éléments dans un roman de la série Noire qui porte le nom de Dernière Station avant Jérusalem, et lui-même, quand il rentre le soir chez lui, écrit l'histoire qu'il est en train de vivre. Avec Dernière Station avant Jérusalem, finalement Alain de Mouzon invente un nouveau genre, le métapolar. Et il est tout à fait habilité à le faire. La création de l'association 813 Les Amis de la Littérature Policière en 1980, dont il a été le premier président, mais qui vit aussi lui succéder François Guérif ou Claude Mesplède, en témoigne. Cette volonté de porter un regard exigeant sur le genre. Dernière Station avant Jérusalem, c'est le bonheur de la lecture retrouvée. De Mouzon a une manière non pas de triturer la langue, mais de déconstruire la fiction tout à fait réjouissante. Est-on encore dans le polar? Dans le roman noir? Est-on déjà dans le fantastique? Ou alors dans la science-fiction? Alain de Mouzon a l'air de s'en foutre royalement. Mais ce qu'il réussit brillamment à faire, avec une grande rigueur, c'est interpeller ses confrères sur la nécessité de sortir des sentiers battus et rebattus du genre. Dernière Station avant Jérusalem, c'est 180 pages de pure littérature qui hausse le genre au niveau le plus élevé, à consommer sans modération.
En série. Le jury du prix Clouseau, un prix décerné à la meilleure adaptation BD lors du festival Regard Noir de Niort, se réunit virtuellement ce jeudi. Six ouvrages sont en compétition et brassent les sous-genres du polar, de Vian à Mallet en passant par Franz Bartelt et Lance Weller. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et pour l'heure, sachez que le festival est maintenu et c'est une sacrée gageure respectable. Il pourrait se dérouler en février. Le festival Quai du Polar, lui, a d'ores et déjà décidé de décaler ses dates. Traditionnellement tenu après Livre Paris, il se déroulera en juillet. Les humanoïdes associés, en partenariat avec le festival Polar de Cognac, ont sorti une bande dessinée intitulée « Polar shot entre amis à Cognac ». Les auteurs BD y foisonnent au gré d'histoires courtes. Une histoire longue, le Grisby d'Albert Simonin. Il reparaît à la manufacture de livres. Encore elle, me direz-vous. Eh oui, mais c'est comme ça, et c'est truculent, et ça plairait à Luc. L'association 813 vient de faire paraître le 137e numéro de sa revue. Elle est consacrée à Boris Vian et à son double méphitique Sullivan. Parmi les autres thèmes abordés, un focus sur Israël, terre de polar. Moi, je vous rappelle le titre du roman de Dominique Format, Manaus. Pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses, le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission, et la page Facebook Calibre 58. On vous dit à dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Salut Luc, salut Linda et encore merci.
Au revoir Julien, au revoir à tous et puis à bientôt pour de vrai, j'espère.
C'est déjà fini. Bon, alors au revoir les amis.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James ? Comment il a vécu ? Comment il est mort ? Ça vous a plu, hein ? Vous en demandez encore ? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker.
Clyde Barrow,
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement habillé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
On prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac.
Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution, c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde.
101.5 FM.
J'aurais pu en entrevoir. Tu as toujours été là.